paix soit sur toi, ô messager de Dieu, et sur ta sainte et bénie famille. Que la paix soit sur toi, ô Abba Abdullah, ô miséricorde de Dieu sur terre, et ô porte du salut pour les cœurs. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوا على محمد وآل محمد. Dieu dans le cinq rang dit بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà, dans le sens, voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, car cela relève de la piété des cœurs. Dans le contexte de ce verset coranique, lorsque ce verset fut révélé, quand on voit le contexte, ça concerne les rituels du Hajj. Et en gros, Dieu dit, celui qui donne vie à ces rituels, donne de l'importance à ces rituels, en fait, cela relève de la piété des cœurs. De la piété des cœurs. Ça, c'est le contexte premier du verset. Mais en vérité, tout acte qui est fait dans l'obéissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, pour satisfaire Dieu, eh bien, il rentre dans cette philosophie des rituels de Dieu, de Sha'air Allah. Quand tu jeûnes, quand tu payes le zakat, quand tu pries, c'est fait dans l'obéissance d'Allah. Et ça fait partie de Sha'air Allah. Comme le sont les rituels du Hajj. Il n'y a pas de débat ni de doute sur le fait que aimer Ahl al-Bayt, alayhi salam, fait partie des ordres de Dieu. Et les aimer, c'est en fait obéir à Dieu. Vous avez des dizaines et des centaines de hadiths, mais si on oublie les hadiths, on prend seulement le Coran, Dieu dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَ. Dis, je ne me demande pour cela aucune récompense, si ce n'est l'amour pour les proches. Dieu ordonne le prophète de dire aux gens, pour cela, c'est-à-dire pour les efforts et pour le temps que je vous donne pour transmettre ce message, je ne veux aucune récompense. L'argent, les femmes, les palais, que ce que vous pouvez proposer, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous pouvez proposer ne m'intéresse pas. Si ce n'est l'amour pour les proches. Et tous les mufassirin chiites, et même une grande partie des mufassirin sunnites, parce qu'ils ont des hadiths, les sunnites ont des hadiths sunnites, qui prouvent que ici, qurbas, les proches, c'est Ahl al-Bayt. Sont d'accord que les qurbas ici, les proches, sont Ahl al-Bayt. Et donc, respecter Ahl al-Bayt, aimer Ahl al-Bayt, fait partie des ordres de Dieu. Et celui qui aime Ahl al-Bayt, il est dans la voie de l'obéissance envers Allah. C'est pour ça que aimer Ahl al-Bayt et montrer l'amour envers Ahl al-Bayt fait partie des sha'air Allah. Parce que tu es dans l'obéissance de Dieu. Et il y a quelques nuits, on a lu le hadith de l'imam Ali qui décrit les chiites. Il dit, ils sont contents pour nos événements de joie et ils sont tristes et attristés pour les événements de tristesse qui le touchent. Et donc ces rituels qu'on fait pendant Ashura, pendant ces soirées de Ashura, que ce soit les larmes qu'on verse, ou bien les poèmes qu'on chante pour l'imam al-Hussein, ou même le repas qu'on cuisine et qu'on mange ensemble, ou le latin qu'on fait ensemble, tout ça on appelle, tout cela les rites husseinides. Et ça fait partie de ces sha'a'r de Dieu mentionnés dans le verset que je viens de lire. Il n'y a pas de débat sur le fait que ces rituels qu'on fait aujourd'hui pendant les jours d'Ashura sont des rituels sacrés auprès d'Allah et qui rentrent dans ce verset que je viens de mentionner. On va parler spécifiquement sur les pleurs et les larmes pour l'imam al-Hussein a.s. Et on aura quatre points. Premièrement, est-ce légitime de pleurer sur l'imam al-Hussein alayhi salam? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, il y a beaucoup de non-chiites qui se posent cette question. de manière des fois légitime. Il y a une curiosité, c'est pas, il y a pas, on va dire, de mauvaises intentions derrière. Ensuite, vous avez des gens, non, qui veulent attaquer les chiites sur ce point, qui veulent faire douter les chiites, qui veulent faire croire aux gens que c'est des genres d'égarement ou d'innovation. Donc, c'est ça, ce sera le premier point. Est-ce légitime de pleurer sur Al-Hussein, alayhi salam? Le deuxième point, quelle est la position de l'école d'Ahl al-Bayt sur les pleurs et les larmes sur l'imam Al-Hussein? Troisièmement, on va aborder la récompense qui se trouve dans le fait de pleurer sur l'imam Al-Hussein, alayhi salam. Quatrièmement, inshallah, si on a du temps, on va aborder la sagesse et la philosophie derrière les larmes et les pleurs pour l'imam Hussein. Donc, on commence par le premier point. Est-ce légitime de pleurer sur l'imam Hussein? Quelqu'un pourrait dire, ça fait maintenant 14 siècles, le musulman doit être patient, c'est fini, etc. Pleurer sur les morts, en général, c'est de l'innovation, mais là, encore pire, sur le Hussein, ça, c'est de l'exagération. Et vous savez, un peu, ce discours, surtout porté aujourd'hui par certains mouvements, bon, notamment les wahhabites. On dit premièrement pleurer, parce qu'eux, ils ont un problème avec le, en général, pleurer sur les morts, et ensuite, pour embêter les chiites, pleurer sur l'imam Hussein. On dit en général pleurer, c'est une réaction humaine et naturelle. On pleure pour la douleur physique qu'on a, mais aussi pour la douleur du cœur. Quand je perds un proche, on pleure. Quand je pleure un ami, on pleure. On pleure tous. Donc c'est une réaction naturelle et humaine. Et ça, on le voit même en fait à travers l'histoire des prophètes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, dans sa vie, quand Hamza est mort, Hamza c'était son oncle, mais ils étaient assez proches au niveau de l'âge. Donc c'était un peu comme son ami, son oncle et son ami. Ils sont de la même génération. Quand Hamza il est mort, il a pleuré Hamza. Et Ahad il a dit, où sont les gens qui viennent pleurer mon oncle Hamza? Parce qu'il a vu à côté du corps de chaque martyr, il y avait sa famille qui pleurait, ses amis qui pleuraient. Mais Hamza n'avait personne. Alors le prophète est venu pleurer, il a dit, qui pleure sur Hamza? Qui vient pleurer avec moi sur Hamza? Il est aussi rapporté que l'imam, que le prophète pleura ses garçons morts. Le prophète dans sa vie, il a eu des garçons, mais ils sont tous morts en bas âge. À chaque fois, il pleurait pour ses enfants morts en bas âge. On a d'autres exemples. Le prophète Yaqub, le père de Joseph. Le Coran nous dit, وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. Dieu dit dans le Coran, alors que Joseph n'était pas mort, mais il avait un chagrin pour Joseph. Ça faisait des années qu'il n'a pas vu Joseph. Et vous connaissez tous l'histoire de Youssef, je ne peux pas la raconter aujourd'hui, mais en résumé, il avait un très grand chagrin. Dieu nous rapporte dans le Coran, il rapporte les paroles de Yaqub. Ya Asafa ala Youssef, quel chagrin, quel grand chagrin j'ai pour Youssef. Ensuite, Dieu dit, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. Et ses yeux blanchirent de tristesse. En résumé, il est devenu aveugle. Tellement il a pleuré, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Alors que Youssef n'était pas encore mort. Et donc ça, c'est le premier point. C'est quelque chose de naturel et de normal de pleurer. Surtout si on a perdu un proche. C'est pas facile de perdre un proche. Et on a vu des exemples de la vie des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et le prophète Yaqub, alayhi salam. Deuxièmement, pleurer sur l'imam al-Hussein, spécifiquement, c'est une sunna du prophète. Chez les chiites, il y a extrêmement beaucoup de hadiths. Mais chez les sunnites également, il y a des dizaines de hadiths. Je vous mentionne un seul hadith. Ahmed bin Hanbal, un savant sunnite, a rapporté dans son musnad qu'un jour il est rentré chez le prophète et il a vu le prophète pleurer. Il a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a fait du mal? Le prophète lui a dit non, ya Ali. Mais en vérité, il y a peu de temps, Jibra'il était chez moi. Et il m'a informé que mon petit-fils Al-Hussein sera tué près de l'Euphrate. Je lui ai alors demandé de me donner un peu de cette terre où il va mourir, la terre de Karbala, parce que je voudrais bien la sentir. J'ai alors pris cette terre de Karbala, je l'ai sentie et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et ça, c'est juste un seul exemple. On a beaucoup de hadiths chez les sunnites, où le prophète, des décennies avant le martyr de l'imam Hussein, à cette époque-là, n'avait pas encore lieu de son martyr. Il était encore tout jeune, l'imam Hussein. Mais le prophète a pleuré. Et donc, quand vous avez ce genre de discours qui veulent nous faire douter sur les larmes et les pleurs du prophète, Il faut répondre que non seulement c'est quelque chose de naturel, mais en fait, on est les seuls aujourd'hui à suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ça, c'était pour le premier point. Est-ce légitime de pleurer sur l'imam al-Hussein? On a vu que c'est quelque chose de naturel, et de pleurer en général, ça arrivait dans la vie des prophètes. Et ensuite, que c'est une sunna prophétique. On va maintenant, aborder maintenant le deuxième point. Le deuxième point, c'était la position de l'école d'Ahl al-Bayt sur le fait de pleurer sur l'imam al-Hussein. En général, dans le schisme, dans cette école de l'islam authentique, préservée par la voix d'Ahl al-Bayt, pleurer et exagérer dans la tristesse, c'est déconseillé. Ça, c'est la base. C'est déconseillé parce qu'il n'est pas convenable pour un musulman et pour un croyant d'exagérer dans la tristesse. Surtout dans certaines cultures, quand il y a un proche qui meurt, il commence à s'arracher les cheveux, à se frapper, etc. Bon, des fois, c'est culturel. Ça, c'est quelque chose de pas convenable. Parce que pour nous, les musulmans, la mort, c'est juste une étape pour l'au-delà. C'est une étape de transition. Et la mort, haq, la mort, c'est une vérité. On va tous passer par cette mort. Que le nafsen va'iqatul maut. Donc, il n'est pas convenable pour un musulman d'exagérer et de surexagérer. Et de pleurer pendant des mois et des années pour un proche mort, etc. Mais, quelques années, tu vas le rejoindre. La mort, c'est une vérité, elle touche tout le monde. Ça, c'est la base. Tous les hadiths qui mentionnent les pleurs et ce qu'on appelle en arabe al-jaza. Al-jaza, c'est la tristesse exagérée. C'est l'affliction exagérée. Tous les hadiths déconseillent cela. Déconseillent les pleurs et al-jaza. Al-jaza, c'est quoi? C'est, quand vous allez dans le dictionnaire arabe, c'est naqid al-sabr. C'est l'inverse, c'est l'opposé de la patience. Non, il est demandé du musulman d'être une personnalité forte, une personnalité qui patiente. Il faut patienter. Ça, c'est, on va dire, de manière générale. Mais quand on va dans ces hadiths que je viens de mentionner, qui disent que les pleurs et jaza sont déconseillés, quand on va dans tous ces hadiths mentionnent une seule exception. Ils mentionnent l'exception d'Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam. Dans un hadith, l'imam al-Sadiq dit, tous les types de pleurs et de jaza, c'est-à-dire de tristesse exagérée, sont déconseillés, sauf pour Al-Hussein. Et dans un autre hadith, il dit, les pleurs et Al-Jaza pour le serviteur est déconseillé dans ce qu'il l'attriste. C'est déconseillé. C'est pas illicite, mais c'est déconseillé. Makrouh. Ensuite, il continue en disant, sauf les pleurs et Al-Jaza pour Al-Hussein, car il y a dedans de la récompense. Il dit au contraire. Pour l'imam al-Hussein, c'est non seulement c'est pas makrouh, mais c'est en plus déconseillé, il y a de la récompense dedans. Et donc, al-jaza et les pleurs en général, c'est déconseillé, mais pour l'imam al-Hussein, alayhi salam, c'est conseillé, il y a de la récompense dedans. Alors, le pourquoi du comment, on va l'aborder dans quelques instants, inshallah, quand on va arriver au quatrième point. Le troisième point, toujours dans le sujet des pleurs et des larmes pour l'imam al-Hussein. Le quatrième point. La récompense qui se trouve dans le fait de pleurer pour l'imam al-Hussein. Nous avons des dizaines et des centaines de hadiths sur ce sujet. On a Kamal Ziyarat, un livre extrêmement connu. Son auteur l'a compilé pour ce sujet. Il y a beaucoup de hadiths, mais aujourd'hui, je vais mentionner un seul qui est assez intéressant. L'imam Sadiq alayhi salam dans Bihar al-Anwar, dans ce hadith, il dit: celui qui verse une larme pour Al-Hussein, ne serait-ce que de la taille d'un aile de mouche, Dieu lui pardonnera tous ses péchés, ne serait-ce, même si c'était la taille de l'écume de la mer. Et ce hadith est extrêmement important. Parce qu'ici, l'imam Ja'far Sadiq veut faire une comparaison. Il veut frapper les esprits. Il dit, si tu pleures même un tout petit peu pour l'imam al-Hussein, il dit, une larme de la taille de l'aile de mouche. Ben, une mouche, c'est hyper petit. Il dit, non, pas une mouche. L'aile de mouche, encore plus petit. Eh ben, cette petite larme, elle peut te faire, auprès d'Allah, pardonner tous tes péchés, même s'ils sont de la taille de l'écume de la mer. Et aujourd'hui, la mer, bon, vous prenez la planète, pour la majorité, c'est recouvert d'eau, d'océan et de mer. Alors, imaginez l'écume de mer. Impossible de quantifier cela. Combien y en a-t-il? Kilomètres, des kilomètres, c'est extrêmement grand, Yanni. Et l'imam dit que tes péchés, même s'ils sont dans cette quantité interminable comme l'écume de mer, ils seront pardonnés, même si tu as pleuré une petite larme de la taille de l'aile de mouche. Pas de mouche, de l'aile de mouche. Ça, c'est la récompense, et ça, c'est un exemple de la récompense pour le fait de pleurer de l'imam Hussein. Bien sûr, au début du majlis, on a aussi mentionné plusieurs fois avec Ja'far ben Affan, l'imam a dit que toute personne qui récite un poème et qui pleure et fait pleurer aura le paradis comme demeure et ses péchés seront pardonnés. Ensuite, on a aussi mentionné le hadith de Abu Haroun el-Makfouf, où l'imam dit, celui qui récite un poème sur Al-Hussein et pleure et fait pleurer, 10 personnes aura le paradis. Ensuite, il a dit 5 personnes, ensuite une seule personne. Bon, ça rentre dans cette philosophie. C'est que Al-Hussein est la miséricorde de Dieu. Et le fait de pleurer pour Al-Hussein, c'est la porte pour cette miséricorde infinie. Ça, c'était le troisième point, la récompense qui se trouve dans le fait de pleurer pour l'imam Al-Hussein, alayhi salam. Quatrième et dernier point, c'est quelle est la sagesse et quelle est la philosophie derrière le fait de pleurer pour l'imam Hussein. Donc on a compris que la récompense est immense pour le fait de pleurer l'imam Hussein. On a compris que pour Ahlul Bayt c'était extrêmement important. Mais pourquoi? Et quelle est la philosophie et la sagesse derrière cela? Quelle est la philosophie et la sagesse derrière cela? Il y a plusieurs points qu'on peut aborder, mais aujourd'hui, je vais seulement aborder quelques points. On va essayer de résumer, comme ça on ne prend pas beaucoup de temps. Ahlul Bayt, alayhi salam, ils ont dû faire face à un empire. Des fois, on n'arrive pas à imaginer ça, mais c'est un empire. Et c'est pas facile. Les Omeyyades, c'était un empire. Tu prends à l'époque la carte, la moitié de la carte ou le quart de la carte les appartenait. Et un empire, déjà un État aujourd'hui, il a des moyens financiers, il a des moyens militaires. Il a de la propagande d'État. Mais là, ce n'est même pas un État, c'est un empire. Et donc, ils ont très vite, après Karbala, dû faire face à une propagande d'État qui était cruelle et sans merci. On rapporte même que lorsque l'imam Ali alayhi salam est tombé en martyr, il y a des gens au Levant, dans le Cham, ils ont dit, pourquoi Ali priait? Ils étaient choqués du fait que Ali priait. Si Ali ne prie pas, qui prie? Ali est la prière, est le jeûne, c'est la zakat. Si Ali prie, qui ne prie pas? Mais c'est pour vous dire que la propagande à l'époque, qui est une propagande d'un empire en entier, qui a des moyens, qui a de l'argent, elle a réussi à faire croire aux gens qu'Ali est un pervers, et qu'il ne prie pas. Et donc, face à cette propagande, les élus de Dieu qui étaient Ahlul Bayt avaient besoin d'un moyen pour contrer cette propagande et pour toucher les cœurs. Par sa nature, l'être humain, il a des sentiments, et par sa nature, normalement, hein, s'il n'est pas égaré, il déteste l'injustice. Il aime la justice. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Thani ala hubb al-Hassan wa al-Hussein. الثالثة لتعجيل فرج صاحب الزمان. Et donc, le fait de pleurer, d'en faire une culture générale, ça permet à Ahlul Bayt, alayhi salam, de toucher les cœurs. Par sa nature, l'être humain, quand il n'est pas égaré par la haine, il penche vers celui qui subit l'oppression. L'être humain, Dieu l'a créé sur la fitra, il aime la justice. Et Ahlul Bayt n'avait pas d'autre moyen que d'utiliser, par exemple, les pleurs, la poésie, cette culture populaire. Parce qu'il touche les sentiments par les pleurs, il touche les sentiments des gens. Également, il touche la curiosité des gens. Combien de gens aujourd'hui ont découvert l'école d'Ahlul Bayt par Ashura et par les pleurs pour Ashura? Il y a extrêmement beaucoup d'histoires. J'ai une fois personnellement écouté un enregistrement, une sœur qui s'est convertie au schisme. Elle était allée en Syrie pour une conférence, il y a quelque chose de rien à voir avec la religion ou Ashura ou le schisme. Mais après la conférence, il y avait quelques activités de tourisme. Et vous savez très bien que le mausolée de Sayyida Zainab en Syrie, il est premièrement extrêmement connu et puis très beau. Il y a même des gens non chiites et non musulmans qui vont le visiter. Au niveau de l'histoire, de l'architecture, c'est un lieu assez important. Et donc elle dit, on est allé, on a visité plusieurs endroits, dont le mausolée de Sayyida Zainab. Et là-bas, j'ai vu une femme pleurer, mais vraiment beaucoup. Elle, c'était une sunnite. Je lui ai alors demandé, mais pourquoi tu pleures? Elle était près de la cage de Sayyida Zainab, elle pleurait de manière exagérée. Cette femme lui a dit, je pleure pour Al-Hussein. Alors l'autre femme lui a dit, Al-Hussein c'est qui? Ton cousin, ton mari, ton fils? T'as perdu un proche qui s'appelle Hussein? Elle dit, non, je pleure pour Al-Hussein, le petit-fils du prophète. Et cette femme a été choquée. Premièrement, le prophète avait un petit-fils, il a été massacré. Et puis de toute façon, même après 14 siècles, pourquoi cette femme, elle pleure avec toute cette émotion? Et donc après, elle raconte comment les pleurs pour l'imam Hussein l'ont mené à découvrir l'école du schisme. Et donc pour résumer, les pleurs pour Ahlul Bayt, c'était l'un des moyens pour toucher le sentiment des gens. Parce que le cœur des gens, s'il n'est pas égaré, il penche vers la justice, il déteste l'oppression. Et donc, contre cette propagande d'État et d'Empire qui était les Omeyyades, c'était l'un des moyens pour Ahlul Bayt, pour toucher le cœur des bonnes personnes et les guider vers l'imam al-Hussein et les faire découvrir cette tragédie qui était la tragédie de l'imam al-Hussein. On espère, inshallah, dans ces nuits, d'avoir de la part de Dieu les bénédictions de l'imam al-Hussein. Inch'Allah, de verser, comme on a vu, une larme de la taille d'une aile de mouche. Parce que ça, même cette quantité de larmes, c'est une réussite de la part d'Allah. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein, wa sallillahumma ala Muhammadin. وآل محمد